France Culture.
Je pense que c'était clair.
Oui, vous avez des craintes. Bonjour. De quoi parle un juge des tutelles avec un avocat à la machine à café du tribunal d'Aurillac ?
De plein de choses, mais en l'occurrence, nous parlons d'un dossier qui nous a amusé, c'est peut-être pas le mot, mais qui nous a perturbé parce que Madame Lasserre m'a promis que le client qu'elle avait homologué sur une CRPC, on n'allait pas tarder à le revoir. Et il se trouve qu'en 7 jours, je l'ai eu 2 fois en garde à vue. Madame Lasserre a des dons de voyance.
J'ai pas de commentaire à faire. J'ai des dons de voyance. C'est les avocats qui le disent. Non, je me doutais au positionnement du client de Maître Chavignier que même si, comme ce sont des jeunes majeurs, j'ai pris du temps dans la CRPC. CRPC qui est l'homologation d'une peine proposée par le procureur après que le prévenu ait reconnu sa culpabilité. Comme ce sont des jeunes majeurs, j'avais pris du temps pour leur dire, leur expliquer qu'il ne fallait pas revenir devant le tribunal, notamment puisqu'ils avaient des sursis probatoires, et que s'ils recommettaient une infraction, ils risquaient de voir leur sursis probatoire révoqué. Donc j'ai expliqué ça dans des termes simples, en long, en large et en travers, et le lendemain ou le surlendemain, Maître Chavignier me dit « Monsieur X se retrouve en garde à vue pour des faits antérieurs. » Je dis « Bon, donc c'est bien, le sursis probatoire ne sera pas révoqué. » Et ce matin, à la machine à café, il m'annonce qu'il est mis de nouveau en garde à vue, mais pour des faits postérieurs.
Donc, vous amuser en plus, si je peux me permettre, c'est du recel de 32 cornets de glace à la vanille.
Je comprends, puisque actuellement, il fait 20 degrés dans le Cantal.
Jour ordinaire au tribunal d'Aurillac. Michel Pomared, Jean-Philippe Navarre. Troisième épisode, le droit rural en action.
Guitry Lasserre vous a quitté hier dans vos fonctions de juge de tutelle. Oui. On vous retrouve ce matin avec quel habit, j'allais dire ?
Je vais présider dans quelques minutes l'audience juge des contentieux de la protection, qui regroupe deux types de contentieux, essentiellement le bail d'habitation et le crédit conso, mation, et le défichage, puisque ça passe également à l'audience.
C'est quoi ça ?
Le défichage des personnes qui ont été fichées par les établissements bancaires du fait du défaut de paiement de leur mensualité, soit de crédit consommation, soit de crédit immobilier, ou encore en raison d'un plan de surendettement qui a été adopté. Après l'audience civile, il y aura à 13h30 la comparution immédiate, où je ne préside pas, je serai seulement assesseur. Je préside mardi prochain.
Ouf.
Bonjour. Alors, je suis Nathalie Lescure, je suis vice-présidente chargée des libertés et de la détention. Mes fonctions donc sont essentiellement d'être juge des libertés et de la détention, ce qui signifie que je suis chargée du placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire des personnes dans l'attente de leur jugement. Et d'autre part, j'ai des fonctions civiles, puisque je suis chargée du contrôle des hospitalisations complètes.
Ça veut dire quoi exactement ?
Alors, je suis saisie avant le 8e jour et je dois statuer avant le 12e jour à compter du début de l'hospitalisation complète. Et mon contrôle porte d'une part sur la régularité de l'hospitalisation complète et d'autre part sur le bien fondé, c'est-à-dire que médicalement l'hospitalisation est justifiée. Mais pour ce faire, je me réfère à ce qu'indiquent les psychiatres.
Qui hospitalise qui, en fait, en psychiatrie ?
Alors, il y a plusieurs voies d'hospitalisation. Les hospitalisations sur décision du représentant de l'État. Alors, dans ce cadre-là, c'est pour les personnes qui compromettent la sûreté ou qui peuvent porter atteinte à autrui. Et d'autre part, les décisions d'hospitalisation sur décision du directeur de l'hôpital. Là, ça peut être à la demande d'un tiers, à la demande d'un tiers en urgence et en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
Combien est-ce qu'il y a de personnes que vous visitez ?
C'est pas régulier en fait, en moyenne 3 à 5 personnes par semaine. Alors, on n'est pas du tout dans les chambres, on ne va pas véritablement dans les lieux d'hospitalisation. On est dans une salle qui est mise à notre disposition par l'hôpital, une salle d'audience dans laquelle se retrouvent donc la greffière, l'avocat et le patient, et moi-même.
Donc il y a un avocat qui est présent
oui,
à chaque...
présent, systématiquement.
Et est-ce que vous êtes en robe à cette salle d'audience? Non, vous êtes en civil.
Oui, voilà, parce que c'est du contentieux... qui relève de la protection. Donc dans ce cadre-là, je ne mets jamais la robe.
Vous savez qui est l'avocat ce matin en face de vous?
Maître Goua.
Bonjour,
c'est moi, Maître Goua, de la SCP, moi, mais je serai rapide.
Notre rôle, nous, en hospitalisation d'office, en fait, on est là pour porter la voix des patients, parce que certaines fois, ils sont sédatés par rapport à leur traitement médical. Parfois, ils se présentent ou ils ne se présentent pas. Comme ce matin, vous voyez, j'avais 3 dossiers, aucun s'est présenté.
Parce... Ça veut dire quoi? Ils ne se sont pas présentés.
Et bien, en fait, ils n'ont pas souhaité descendre pour voir le juge. Alors, soit parce que y en avait un, par exemple, il était en isolement, et les 2 autres patients ne souhaitaient pas s'exprimer devant le juge. Tout simplement. C'est leur droit. Dans ce cas-là, eh bien, nous, on peut que s'en rapporter à la décision du juge dans la mesure où on n'a pas leur parole. Donc, nous, on s'en rapporte à la décision du juge. Mais en revanche, quand les patients se présentent à l'audience, nous, on est là donc pour leur porter leur voix, mais également pour, surtout, et c'est notre principal rôle, pour vérifier la régularité de la procédure. Parce qu'effectivement, en hospitalisation sous contrainte, les patients sont hospitalisés sans leur consentement. Raison pour laquelle notre rôle premier, c'est de vérifier si l'ensemble des certificats médicaux sont présents, les avis médicaux qui justifient la présence du patient dans ce système d'hospitalisation. Notre rôle est principal par rapport à ça et qui va se joindre également au juge, puisque comme moi je suis avocat, mais je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas me prononcer sur l'opportunité ou non d'une hospitalisation, mais bien sur la régularité en soi de la procédure, et tout en étant en assistant le patient qui souhaite faire passer des éléments ou des mots, faire porter sa voix auprès du magistrat. En hospitalisation sous contrainte, ça peut être des décompensations, ça peut être une hyperagitation, c'est pas forcément des faits en lien avec des infractions. En règle générale, un patient sous hospitalisation contrainte, il passe sous 15 jours ou à 3 semaines en hospitalisation libre parce que le consentement va être libre et éclairé par la suite, donc le juge n'aura plus à statuer sur cette mesure de contrainte.
On y va ?
Alors, juste une seconde, je vérifie avec le parquet que j'ai pas de dossier nouveau pour la CI demain parce que ça me change considérablement mon emploi du temps et j'arrive. Merci. Audrey Bessac, je suis nommée au tribunal de proximité de Saint-Flour, officiellement. Donc, je gère le tribunal de proximité avec toutes les compétences afférentes. Et comme c'est pas un emploi à temps plein, je suis également juge aux affaires familiales à Aurillac, puisque le tribunal de Saint-Flour dépend d'Aurillac. Et je siège en collégial civil à Aurillac. C'est les dossiers, principalement les dossiers de construction qui me sont attribués. Et je suis également juge des libertés de la détention, quand il faut, lors de permanence, notamment, sur Aurillac.
Mais vous siégez aussi au tribunal des bourgs ruraux, donc à Saint-Flour.
Voilà, Saint-Flour, c'est à la fois tout ce qui est facile de la proximité. Donc, il y a le tribunal paritaire des bourgs ruraux, mais il y a également surtout les tutelles, ce qui est en termes de temps le plus prenant, et également tous les contentieux civils.
Comment vous jonglez à travers ces différentes attributions?
Je m'organise. J'essaie de m'organiser. Le timing est important. Il faut s'y retrouver. Il y a une période du mois où effectivement je suis en présentiel à Aurillac. Le reste du temps, je suis à Saint-Flour. Et j'essaie d'avoir des délibérés qui me permettent un temps de délibéré qui me permettent de rendre mes décisions systématiquement avant la prochaine vague d'audience. En fait, là, par exemple, j'ai mes audiences des affaires familiales. Je rendrai toutes mes décisions avant de revenir en décembre, concrètement. Les affaires familiales, c'est assez divers. C'est à la fois donc lorsque les couples qui n'ont jamais été mariés se séparent. Donc c'est ça, le plus gros des dossiers. Mais également, bien sûr, les dossiers de divorce. Numériquement, y en a moins, puisqu'il y a moins de couples aujourd'hui mariés. Après, il y a également les dossiers, tout ce qui concerne les demandes de délégation d'autorité parentale, les dossiers d'objet alimentaire, ce qui, ici, dans le Cantal, est assez conséquent aussi, enfin, proportionnellement à ce que j'ai pu connaître ailleurs. Donc, c'est vrai que c'est assez, assez divers.
Et alors, en quelle qualité allez-vous au tribunal paritaire des Bruits Ruraux ?
En ma qualité de vice-présidente en charge du tribunal de proximité de Saint-Florent, qui est ma qualité principale, normalement, sur le papier. Donc effectivement, je préside ce tribunal avec mes assesseurs.
La voiture. On suit votre associé, Maître Juillard, aux assises et en cour criminelle.
Très bien.
À un moment, on parle du droit rural, il me dit, vous voyez l'expert. L'expert, c'est vous ?
C'est mon domaine d'activité. J'ai une spécialisation que j'ai acquise maintenant il y a 20 ans, à peu près. Voilà, donc c'est un sujet que je connais un peu.
Le problème du jour, c'est quoi ?
Le problème du jour, c'est rendez-vous à Saint-Flour. Donc j'ai des rendez-vous à partir de 9h, de 9h à 11h30. Audience de conciliation à 13h30, avec beaucoup de dossiers sur la feuille d'audience, mais a priori, un ou deux dossiers retenus uniquement. Voilà. Donc on aura des dossiers à plaider, et après le tribunal paritaire va se réunir en audience, en délibéré, pour prendre sa décision, qu'il rendra environ un mois plus tard. Voilà.
Temps de trajet ?
Une heure, voilà. Parce qu'on a un bureau à Saint-Flour, un bureau à Mauriac. Notre souhait au départ, c'était d'être assez proche des clients, parce que le Cantal, il est divisé avec une montagne en plein centre. Et donc, aujourd'hui, ça va, parce qu'il fait beau, il n'y a pas de neige, mais traverser le Cantal, passer de l'est à l'ouest, c'est pas toujours facile, ou bien du nord au sud, c'est pas très simple. Et donc, notre bureau est bien sur Aurillac, mais on avait voulu monter un cabinet à Saint-Flour, et on a monté un autre cabinet à Mauriac pour que les gens puissent venir plus facilement. Qu'ils ne fassent pas une heure ou une heure et demie pour venir voir un avocat. Parce que c'est ça aussi, la réalité de la profession, quoi. Et de la justice dans le monde rural. C'est l'éloignement des gens, et donc des gens qui ne peuvent pas forcément être assistés, être conseillés surtout.
Mais autrement, en droit rural, vos clients, c'est qui ?
Propriétaires ou fermiers, l'un ou l'autre en fonction. Étrangement, ça varie un peu en fonction des zones géographiques. Étrangement, je suis... plutôt pour des fermiers sur le secteur de Saint-Flour et plutôt pour des propriétaires ici. Voilà, je sais pas, ça dépend, ça varie. Et encore, ce que je vous dis, c'est pas tout à fait vrai. Je pense que j'ai aussi pas mal de fermiers ici. Voilà, ça dépend. C'est des gens qui viennent me voir parce qu'ils savent que je connais un peu le domaine, donc ils viennent. Voilà. Beaucoup de travail aussi dans le Cantal, mais aussi sur les départements autour. Comme on est à Saint-Flour, on est proche de la Lozère, proche de l'Aveyron. Et de la même façon ici, quand on est à Aurillac, on est proche de tout ce qu'on appelle Carladès, là, cette partie nord-aveyronnaise. Beaucoup de clients aussi sur le Lot. Et donc, on a des clients qui viennent nous voir un peu autour.
Qu'est-ce qu'il faut comprendre du droit rural ? Parce qu'il recouvre plein de domaines, en fait.
Alors, ce qu'on appelle droit rural, là, ce que vous allez voir, c'est les conflits entre fermiers et propriétaires. Donc, vous avez un bail, vous avez le droit d'exploiter. Et ce droit d'exploiter, soit le propriétaire va vouloir mettre un terme, soit les conditions de location, il va falloir les modifier. Voilà. Et donc, le fermier va vouloir essayer de rester sur la propriété. Ça, ce sont les contentieux classiques. Et après, tout ce qui est rural, c'est le droit de propriété, parce que c'est, voilà, le bornage, la revendication de propriété, les problèmes de trous, l'anormaux de voisinage. C'est aussi tout ce qui concerne les chemins ruraux, les chemins communaux, enfin tous ces contentieux qui sont liés à la propriété, à ce qui fait qu'on est ancré sur un territoire. C'est tout ça le droit rural, voilà. Donc tous les contentieux qui sont autour de ça.
Mais est-ce que ça recouvre pas aussi le droit de l'environnement avec la protection des terres, de la biodiversité, les rivières, les eaux ?
On en voit un petit peu, notamment pour tout ce qui est aménagement des ruisseaux, par exemple. Vous voyez, quand les agriculteurs ont besoin de faire des travaux sur des ruisseaux, des fois, ils ne sont pas forcément bien renseignés ou ils veulent pas être renseignés. Ils font les travaux sans demander les autorisations nécessaires. Donc là, il y a des poursuites. Mais on est ici dans une zone qui est une zone d'élevage extensif. Donc il y a peu de pollution liée à l'agriculture, quoi. On n'est pas en Bretagne, quoi, si vous voulez, c'est ça. Donc on n'a pas ces phénomènes-là de pollution, de difficultés qui sont causées. On peut avoir des problèmes plus liés à l'environnement, enfin au respect des voisins. On a un peu ça à saouler avec des exploitations qui peuvent être un peu grosses et qui peuvent créer quelques nuisances pour les habitats qui sont proches. Mais sinon, on n'a pas de problème lié à une surexploitation. On a aussi tout ce qui est donc le transfert des terres, donc dans le cadre de l'avantage qu'on peut donner notamment au fils ou la fille de famille qui va rester sur l'exploitation avec ce qu'on appelle la quotité disponible, ce qu'on appelle ce que les gens disent le quart, quoi. Ils m'ont donné le quart, donc voilà, c'est cette partie-là. Le salaire différé, les contrats de travail qui sont payés au moment de la succession. Donc tout ça, c'est lié au droit rural, c'est lié à la propriété, au patrimoine. Les gens sont très attachés au bien reçu des parents et comment transmettre le bien reçu des parents à nos enfants, quoi. C'est très prenant chez nous ici. Allez. Hop. Je vais chercher nos valises.
Qu'est-ce que vous avez dans ces valises, maître ?
Que des dossiers.
Maître, moi, le règlement des litiges, donc de manière pacifique, au tribunal des baux ruraux, est-ce que vous avez déjà vu des dossiers glisser de la conciliation au pénal parce que les gens en sont venus à la violence physique ou aux injures ou autres ?
Oui, bien sûr, il y a toujours des dossiers qui sont un peu explosifs où on a des gens qui sont très tendus et donc ça peut dégénérer. Mais les gens, ils font quand même confiance à l'avocat. Et donc, nous, notre objectif, c'est d'essayer il faut maîtriser le client. Si le client n'arrive pas à le maîtriser, à ce moment-là, ça va aller mal. Donc il faut que le client nous fasse confiance et qu'il dise « allez, je vais l'écouter parce que c'est mon avocat et il va me conduire sur la bonne solution ». Bon, il m'est arrivé une ou deux fois d'avoir des clients qui sont pris par le col et à ce moment-là, on a eu des incidents, mais c'est quand même très très rare. Et vous verrez, tout à l'heure, on a, on a deux dossiers. On est arrivé, avec le confrère adverse, à trouver des accords. Et à ce moment-là, tout le monde est bien content. On était parti au tribunal, c'était un peu tendu. Et on arrive, on fait une course à trouver une solution.
Allez, on c'est bon ?
Alors, si vous entendez un bruit derrière, c'est parce qu'il faut que j'aille changer ma plaquette de frein. Parce que la voiture a beaucoup tourné depuis quelques temps.
Vous êtes beaucoup sur les routes ?
Oh oui, je fais 30 à 40 000 par an. Donc ça fait un peu de route.
Bureau licorne, je suis déçue.
Alors c'est quoi cette histoire de bureau licorne, Marine Sève ?
Ah, ça part d'un gros délire avec des amis il y a très très longtemps et tout le monde a pris le jeu, donc j'ai même des magistrats qui m'offrent des décos licorne, vous voyez, donc un peu partout. Ça défend.
À part la licorne, votre rôle dans le tribunal, c'est quoi ?
Ouais, je suis greffière à l'instruction depuis septembre 2021. Au juge des libertés de la détention pénale et greffière des assises depuis 2023.
Toute la semaine, on vous a vu en audience.
Ouais.
Là, vous avez votre robe à l'audience. Votre rôle, c'est quoi ?
À l'audience ? Alors, le greffier d'assises, il a un rôle assez particulier. Il tient un procès verbal, mais il ne va pas noter ce qui se dit, il va noter ce qui se fait. Donc, on ne prend pas les déclarations. On va dire que le témoin a déposé à telle heure, il a prêté serment. Voilà. Nous, on est là pour acter comment se passe l'audience parce que les assises, c'est une procédure orale. Sauf quand le président nous dicte. Le président, à un moment, m'a demandé de faire une mention. Donc là, il m'a dicté et c'est vraiment exceptionnel où j'ai pu noter ce que la personne avait dit. Donc, le greffier d'assises en audience, il fait ça. Le travail des assises, il y en a surtout en amont. C'est tout ce qui est citation, donc les convocations, en fait. Et ça prend énormément de temps. Parce qu'il faut l'envoyer aux huissiers, il faut que l'huissier trouve la personne. Et si on ne trouve pas la personne, il faut demander au commissariat de la trouver. Vous voyez, donc il y a beaucoup de travail en amont sur des semaines. Et une fois que l'audience est partie, on souffle.
Voilà. À quoi ça sert le compte-rendu de l'audience ?
Les PV, c'est pour justement, au niveau de la procédure, vérifier qu'on a bien tout respecté, que les droits ont été notifiés, que les prestations de serment ont été faites, parce qu'en cas d'appel, on peut très bien soulever un vice de procédure.
Vous êtes combien de greffiers au tribunal d'Aurillac ?
Plus d'une dizaine, on a beaucoup de greffiers, on a aussi des adjoints faisant fonction de greffier. Voilà, et on est tous polyvalents, on fait tous plein de choses, on intervient tous partout, puisque c'est une petite juridiction, donc forcément, il faut savoir tout faire à peu près. Voilà.
Pourquoi greffière dans votre parcours, dans vos études? C'est venu comment?
Alors vraiment, à l'époque, j'avais quoi? J'avais une vingtaine d'années, je crois, et je savais, à la base, je voulais être OPJ, vous voyez, je voulais travailler dans la police, hein, vous voyez, donc c'est pas du tout le même truc. Et je savais pas trop quoi faire, et on m'a soufflé l'idée de faire un stage. En fait, dans le cadre de mon master, donc j'ai fait un stage au conseil de prud'homme, à l'époque dans l'Allier. Et c'est là que j'ai découvert le métier de greffier et j'ai trouvé ça génial. Parce qu'on est les premiers contacts au niveau du justiciable, on est là pour leur expliquer les procédures, on les guide. Et j'avais l'impression que tout ce que je disais, c'était parole d'évangile, en fait. Je sais pas comment vous dire, j'avais l'impression que c'était super importante et tout ça. Et donc après, j'ai travaillé comme vacataire dans différentes juridictions. Donc les vacataires, on en a aussi, nous, à Aurillac. Mais j'avais la chance d'être vacataire, mais de vraiment faire un peu le travail du greffier. Donc j'étais avec des super collègues dans la Nièvre. Et c'est comme ça que c'est venu. Et j'ai passé deux fois le concours de greffier. La première fois, je ne l'ai pas eu. Donc je suis retournée vacataire. Et la seconde fois, je l'ai eu. Et c'est le seul concours que j'ai passé. J'ai toujours greffier. J'ai pas passé avocat, j'ai pas passé DG, j'ai pas passé magistrat, j'ai passé greffier. J'ai commencé au juge des tutelles en 2017 et là à l'instruction depuis 2021. Donc ça fait 7 ans que je suis greffier. J'adore ce que je fais, même si des fois on se plaint, on est fatigué, on n'en peut plus. Mais bon, moi c'est vrai que mon travail, je le prends vraiment à cœur et j'adore ce que je fais.
L'amplitude horaire.
Alors, quand j'étais aux tutelles, c'était des horaires plutôt fixes, parce qu'il n'y a pas d'audience tardive. Par contre, l'instruction, le JLD, les assises, ça peut parfois déborder en début de soirée, notamment le juge des libertés et de la détention, où parfois, à 17h, on est appelé en disant « il y a un gars qui sort de garde à vue, on va le mettre en détention pour la nuit, là, il faut être là, quoi ». Donc, le plus tard où je suis rentrée chez moi, à l'instruction, ça devait être minuit et demi, voilà, enceinte de 6 mois.
Sur votre bureau, à côté des licornes roses, des petits... plein d'animaux assez drôles, il y a quand même un slogan un peu revendicatif sur le statut de votre métier. Ça dit quoi?
Oui, tout à fait. C'est marqué « Greffier usé, je ne suis pas considéré, épuisé et sous-payé. Vous aussi, devenez greffier ». Oui, c'est sûr que ça ne donne pas forcément envie de devenir greffier, mais c'est vrai que voilà, y a eu des revendications qui ont été soulevées, et comme je vous disais, on nous en demande toujours plus, et c'est vrai que dans certaines juridictions, voilà, y a des greffiers qui ont pu manifester leur mécontentement en faisant justice morte, comme les avocats ont pu le faire aussi, eux, pendant leur temps, et c'est vrai que voilà, certains greffiers ont pu montrer leur épuisement. Et malheureusement, dans les médias nationaux, on n'en a pas forcément parlé. Pourtant, sur les réseaux sociaux, en tout cas, et même dans les médias locaux, ils ont repris tout ce mouvement. Alors après, bon, c'est dommage que ça ne soit pas autant suivi que quand il y a une grève, entre guillemets, basique, quoi. Parce que si on n'est pas là, il n'y a pas de notification, il n'y a pas d'audience, il n'y a pas de signature. Alors on nous le dit, hein, qu'on est indispensable, mais des fois, on ne nous le montre pas assez.
Les greffières, tu en trouveras qui ont eu des problèmes de faux plafond dans leur bureau. Le faux plafond s'est effondré une fois dans le bureau de l'une. Il y a vraiment une problématique de locaux ici. La grande salle d'audience, tu as les traces de moisissure en dessous du parquet. Puis un peu partout, en fait, dans toute la salle d'audience. Non. C'est pas très bien, je trouve, l'état du tribunal. Il y a vraiment des travaux à faire, ouais.
Après l'intrusion de 2023, où il y a eu un départ d'incendie, des travaux n'ont pas été faits?
Ils ont remplacé ce qu'il y avait était cassé, c'est-à-dire le box des accusés qui avait été, ils avaient réussi à l'éclater. Mais là, par exemple, les deux gros blocs de béton que t'as dans la salle des pas perdus, ça c'était des affiches. Auparavant, il y avait une grande plaque de verre qui permettait de, avec le plan du tribunal, les plaques de verre avaient été cassées, mais elles ont pas été. Non, ils ont juste, pour l'instant, ils ont juste réparé ce qui était vraiment cassé, et, comme la borne d'accueil, etc. Mais il n'y a rien qui a changé depuis, ça fait un bout de temps. Le plafond, il y a des traces d'humidité. Dès qu'il pleut, il y a des rivières dans les couloirs. Là-bas, le mur est abîmé. Le mur s'effrite et effectivement, dès qu'il pleut fort, on a vraiment une épaisseur d'eau dans le couloir. Donc, ils ont ce qu'il faut, les petits panneaux sont jaunes pour dire que ça glisse, etc. Mais
demain, vous faites quoi?
Demain, cour criminelle du Cantal, on continue. C'est plus de la cour d'assises, donc ça va être simplement des magistrats professionnels. Il n'y a pas le côté jury populaire. Pareil sur les affaires de mœurs, dans l'intrafamilial, je crois.
Viol dans une ferme, viol par un prêtre, viol intrafamilial, c'est que des affaires de mœurs, visiblement, les assises dans le Cantal ou les cours criminelles.
Effectivement, c'est souvent des affaires de mœurs. On a des crimes de sang, mine de rien, dans le département, donc c'est pas non plus 100%. On va être, je pense, à une affaire sur deux, effectivement, ça va être des affaires de mœurs dans le département. C'est compliqué parce que c'est des histoires qui sont difficiles à entendre. Ça raconte beaucoup de ce qu'est le département, qui n'est pas du tout à l'écart des affaires de mœurs, comme on peut être à l'écart. On est à l'écart de la criminalité organisée, clairement, on est à l'écart de la grande criminalité. On n'est pas à l'écart des affaires de mœurs ou des violences intrafamiliales. On a eu un féminicide, j'y repense là, mais effectivement, il n'a pas abouti à un procès parce que l'homme s'est donné à mort, mais on a eu. Moi, je suis très content de pouvoir faire l'affaire, de la pouvoir la traiter du début, du moment où j'ai l'information qu'il y a un déploiement de gendarmerie à un endroit et que il faut aller sur place parce qu'il se passe quelque chose de grave, jusqu'au jugement en appel. Là, c'est ce que je vais faire au Puy-en-Velay la semaine prochaine. C'est un forcené qui était ivre, qui était déprimé, qui était chez lui et qui a tiré sur les gendarmes. Et au moment où il tire sur les gendarmes, moi je suis en voiture et j'arrive, on a vraiment le tout début, j'ai vraiment pu couvrir le tout début. Et là je vais avoir la réponse en appel. Ça c'est le pied, à arriver à tout suivre, à suivre toute l'affaire, ça c'est un régal. Ça permet de mieux comprendre comment ça marche.
Passé ce matin.
10.
Madame le greffier, Madame Comba. Alors, combien de dossiers ? 14.
Vous pouvez décrire la salle d'audience ?
Alors, c'est la salle de la chambre du conseil de l'ex-tribunal d'instance. Moi, que j'ai toujours connu comme ça, qui est très en longueur, avec deux fenêtres qui donnent sur le square. Donc, nous, les magistrats, on se met du côté, le long du mur où on voit le square, pour pas que les gens aient le regard attiré par ce qui se passe à l'extérieur. C'est juste une question de stratégie qui soit occupée par nous, en fait, et par ce qu'on va dire, tenir comme propos.
Donc c'est une table allongée avec 6 chaises autour.
Il y en a plus que ça, parce que des fois on est sommes 8-10. C'est une grande table présidentielle. Donc oui, il y a parfois beaucoup de monde. Mais je ne l'utilise que pour les tutelles. Avant, je l'avais utilisé pour le tribunal paritaire des bourreaux. Vous verrez ça avec ma collègue. La phase de conciliation, elle se faisait ici. Et en fait, j'ai appris que pour bien concilier, il faut de l'espace, de l'air, et que les ondes négatives ne soient pas ressenties par les uns et les autres.
Donc parfois, il faut mettre sa robe, et parfois, il faut avoir une grande salle. C'est ça aussi la justice.
Exactement. Il faut adapter au contentieux qu'on a.
Les Quitry-Lasserre, à la fin d'une journée, comme hier ou comme d'autres journées, est-ce que incarner la loi, c'est fatigant ?
Je dis la loi. Le juge, c'est la bouche de la loi. Ce qui est fatigant, c'est de devoir vérifier tout. Parce que la loi change tout le temps. Quand j'ouvre mon ordinateur le matin, d'abord je lis le journal officiel. Donc quand il y a quelque chose qui sort, soit une loi, soit des décrets ou des arrêtés qui peuvent intéresser les collègues, je les enregistre sur mon bureau informatique et je les envoie. Et pareil pour les décisions du Conseil constitutionnel. Après, je suis abonné à Dalle aux actualités, donc tous les jours j'ai une petite information juridique sur les plus grands arrêts.
Donc la consultation du Dalle aux, ça remplace l'horoscope de certains le matin.
Ah oui.
Maître Moins, vous étiez natif d'ici, vous vous êtes expatrié, racontez-moi le trajet un peu.
Alors je suis né à Aurillac.
Et donc j'ai passé mon bac ici à Aurillac, j'ai fait mes études après à Toulouse, parce qu'Aurillac est assez est tourné vers le sud, plutôt vers Toulouse. Donc j'ai fait mes études à Toulouse, et après mes études à Toulouse, j'ai rencontré mon épouse qui était aussi une Aurillacoise, et on a eu l'un et l'autre envie de revenir ici, parce que c'est un pays magnifique. Voilà, donc quand c'est un pays qui est très, très chouette, on y vit très bien. Et les gens sont sympas, voilà. Donc on avait envie de revenir ici, on avait envie de fonder une famille, et c'était plus facile de fonder une famille à Aurillac que dans une grande ville, même à Toulouse. Voilà, donc on a fait ce choix-là et on en est très heureux.
C'est quoi ce rapport au droit dans la famille? D'où ça vient? Quelle lecture vous avez-vous, Maître Moins?
Alors moi, je dis souvent que ma culture, c'est le scoutisme. J'ai passé beaucoup d'années comme scout, de 10 ans à 30 ans, avec mon épouse, on s'occupait de scoutisme. Et donc, c'est ce service, l'idée du service de l'autre. Et je crois que c'est ça. Alors, voilà, pour moi, c'est ça. C'est le droit, c'est une façon de rendre service aux gens. Et je crois que les enfants ont cette tonalité-là, quoi. Voilà, dans la famille. Alors, mon père était avocat, mais son père était agriculteur. Et mon grand-père est décédé jeune, mon père était mineur. Et dans un secteur encore plus compliqué qu'Aurillac, c'était le secteur de Marcenat, dans ce qu'on appelle le Césalier. Mon père nous racontait qu'il allait à l'école en prenant le train à la gare de Landéra, et que pour aller prendre le train à Landéra, il allait en traîneau, parce qu'il y avait la neige. Voilà, donc c'est cette condition de travail. Et tout ça, il nous a dit, si tu veux t'en sortir, il faut travailler, quoi. Voilà. Et donc on a cette culture-là. Et je crois que c'est une culture qui est très paysanne, qui est très rurale, mais qui est très positive. Hein. C'est pas du tout archaïque, c'est une belle valeur. On va passer là à côté du massif du Luron avec le Griou. Si vous êtes sur les hauteurs du Griou, voilà, ou sur le col de Serre, ou de Rombière, c'est très joli, quoi. Vous avez un paysage magnifique. Et la neige arrive. On va arriver à la période sympathique de la neige. Ou des fois, le matin, vous allez à Saint-Flour, vous dites, est-ce que j'arriverai à Saint-Flour? Est-ce qu'il faut que j'appelle les clients pour dire, je ne pourrai pas passer le tunnel du Luron, et donc il faut que j'annule les rendez-vous? Ça, c'est des moments assez chouettes dans la vie d'un avocat de province. Et on attaque le tunnel du Luron. Et on va arriver à la station du Luron. La station de sport d'hiver du camp de l'Auvergne. Vous avez des cerfs qui traversent.
Saint-Flour, c'est combien d'habitants?
Saint-Flour, ça doit faire entre 5 et 6 000 habitants. C'est une ville qui est... Les Saint-Florins sont très attachants, enfin les Saint-Florins, les habitants de ce secteur-là. C'est une ville que je ne connaissais pas trop quand je suis venu rentrer dans le Cantal. J'étais d'Aurillac et je trouve que c'est une ville attachante. Voilà. J'aime bien venir à Saint-Flour. Je trouve que les Saint-Florins sont peut-être un peu taiseux, mais c'est des gens solides, quoi. Quand ils vous disent quelque chose, on sait que c'est vrai et qu'ils ne racontent pas d'histoire, quoi. Voilà, on arrive sur le Couspi des Thermes, qui est la grande place de Saint-Flour, où se passent les grandes fêtes, le foirail, les concours d'élevage, puisqu'on parle de rural, mais aussi la fête foraine, enfin tout ça, c'est la grande place. Voilà.
Bonjour maître. Je vous tape comme ça, j'ai attrapé deux fois de suite le Covid, alors non. Je me méfie. Ouais, la force de voir des gens.
Maître Petit Jean, malicieusement au téléphone, quand je vous avais appelé, vous m'avez dit « Je suis le plus ancien avocat de droit rural de France ».
Vous avez commencé quand alors ?
Ah, c'est pas malicieux, c'est la réalité. Je sais pas si elle est malheureuse ou si elle est heureuse. Ça fait plus de 40 ans que je suis avocat et que je suis spécialiste en droit rural. J'ai été un des premiers à avoir la spécialité et je fais du droit rural depuis plus de 45 ans puisque j'ai fait mes études à l'Institut des hautes études de droit rural et d'économie agricole à Paris. Et j'étais déjà passionné un peu pour tout ce qui environne l'agriculture et le monde rural. Et c'est pourquoi je me suis dirigé a posteriori vers les études de droit et vers la formation d'avocat.
Pourquoi cette passion, Maître Petitjean ? Vos origines, c'est la ruralité, c'est ce département ?
Je suis issu d'une famille d'origine cantalienne, mais ma mère était enseignante à Paris. Donc, malheureusement, on est resté faire nos études à Paris jusqu'à l'âge de 25 ans. Mais on revenait constamment dès qu'on avait des vacances, et on avait des grandes vacances, puisque comme ma mère était enseignante, on venait immédiatement en Auvergne. Et pour moi, c'était les terres de liberté, un peu sabatier, les noisettes sauvages. Et vraiment, j'ai vécu dans ce contexte. Et je disais toujours dans mon entourage, lorsque je serai grand... je viendrai vivre en Auvergne.
Et donc, avocat de droit rural à Saint-Flour, votre quotidien, c'est quoi ?
Le droit rural, ce n'est pas uniquement le problème du statut des baux à ferme, comme certains le croient. C'est à la fois, vous avez le droit du remembrement, le droit des SAFER qui réglemente l'acquisition foncière, toute la législation sur la protection sociale des agriculteurs, les sociétés agricoles, les successions agricoles, donc toutes les partages, le droit des coopératives, le contrôle des structures, parce que quand vous voulez valoriser un foncier, eh bien vous devez demander un permis entre guillemets à l'administration. Donc là il y a toute une législation qui s'applique. Vous avez, c'est le droit de l'espace, le droit de l'eau. Et ça touche bien sûr au droit de l'environnement. Alors, le droit rural, c'est pas uniquement cette matière. C'est-à-dire que le droit rural, vous ne pouvez pas connaître le droit rural sans bien connaître le droit administratif, puisqu'il y a des ponts et des connexions constantes. Vous êtes obligé de connaître le droit des affaires. Des fois, ça flirte aussi avec le droit pénal, bien sûr le droit des affaires.
Maître, l'ordre du mérite agricole sur votre cheminée ? Pourquoi ?
Parce que c'est la reconnaissance d'un ministre de l'Agriculture, qui d'ailleurs qui n'était pas de mon obédience, entre guillemets, hein, mais sur la qualité du travail que j'ai pu fournir depuis toutes ces années.
Et pourquoi autant de chevaux, petits, grands et moyens, dans votre cabinet ?
Ah ça, c'est une passion, et c'est d'ailleurs la passion qui m'enracine un peu plus dans le Cantal. J'ai effectivement la passion des chevaux, et j'ai un élevage de chevaux, voilà. Le cheval, c'est un peu comme le client, il faut être à l'écoute de ses besoins, de ses réactions et de ses sentiments pour pouvoir progresser avec lui. Le métier d'avocat, c'est le métier de la course permanente.
Ça veut dire que si vous allez sur le terrain, dans votre coffre, il y a des boîtes en plastique ?
Ah, normalement, oui, c'est obligatoire. Elles ne sont pas en plastique, d'ailleurs. J'ai copié les vétérinaires, donc elles sont en caoutchouc extérieur, mais à l'intérieur cuir, parce que sinon, l'hiver, on a froid, ou l'été, on transpire. Donc c'est l'outil indispensable, hein, la botte. Ah, c'est vrai. Ce que je peux faire, c'est vous le laisser, et puis vous dirigerez vers le tribunal. Là, c'est main gauche, et puis en face.
Ah, voilà le tribunal, ce qui était le tribunal. Ça a l'image d'un tribunal. Mais aujourd'hui, au tribunal, vous avez Aznavour, vous avez Gladiator à la place. Voilà l'évolution d'une ville, quoi. Hein, c'est ça qui est assez intéressant. Donc, vous avez le tribunal. Et derrière, si vous voulez vraiment maintenant aller au tribunal, c'est presque une ruelle qu'il faut pour accéder au tribunal, en fait. Et là, étrangement, il n'y a rien qui vous indique que c'est le tribunal, mais vous avez le tribunal. Vous avez donc 4 ou 5 marches, une petite porte et le tribunal se trouve au deuxième étage, sans ascenseur. Donc quand vous êtes handicapé ou une personne à mobilité réduite, ce qui est forcément le cas d'une personne un peu âgée, eh bien, vous avez aussi à supporter ça. Mais c'est ça, aujourd'hui, le tribunal de Saint-Flour. On rappelle, il y a deux tribunaux dans le Cantal. Hein, et donc ça, c'est le tribunal qui fait toute la partie est, et quasiment un tiers de la population du Cantal vient ici. Et voilà dans quelles conditions ils sont accueillis. Il y a encore du travail à faire.
L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Je vais procéder à l'appel des causes. Le 21-4, personne n'a d'informations, non? Bon, j'ai des courriers. Vous voulez bien les substituer les uns les autres, s'il vous plaît? Mettre la fond, vous voulez bien mettre mince? Donc, il semblerait qu'il y ait des pourparlers, toujours en cours. Ça fait plus d'un an qu'il y a des pourparlers. Donc, ce que je vais faire dans ce dossier, c'est que je vais le radier. Et ils réinscriront lorsqu'ils auront trouvé un accord, s'ils souhaitent que le tribunal statue. Alors,
racontez-moi comment ça se passe. C'est quoi exactement le tribunal par état des Brureaux?
C'est donc une juridiction qui dans le Cantal a son importance hein, puisqu'il y a quand même pas mal de baux justement ruraux, pas mal d'exploitations agricoles, qui est composée donc à la fois d'un président qui est un magistrat professionnel, donc moi, et d'assesseurs, deux assesseurs qui sont élus, hein, qui représentent les exploitants agricoles, et deux assesseurs qui représentent les bailleurs, donc les propriétaires agricoles. Et voilà, c'est une juridiction qui est collégiale, donc on est cinq hein, toujours, pour qu'il y ait toujours une majorité qui puisse se dégager. Donc on est en principe tous présents, sauf quand je suis saisie dans le cadre des référés, où là je suis seule le président statue. Et nous statuons lors de la première phase, donc la conciliation, qui consiste à recevoir l'ensemble des parties, avec ou sans leurs conseils, leurs avocats, échanger. Sur les problématiques et les demandes des uns et des autres, voir si une solution amiable peut être trouvée. Si c'est le cas, on l'acte, on constate la conciliation tous ensemble. Et si c'est pas le cas, on constate l'absence de conciliation, soit parce que l'une des parties s'est pas présentée, soit parce qu'il n'arrive pas à trouver d'accord. Et dans ce cas-là, le dossier est renvoyé au fond pour que les parties puissent échanger pendant tout le temps qui sera nécessaire, afin à la fin d'arriver au... lorsque le dossier est prêt, à un jugement rendu par le tribunal, tous les cinq.
Mais tous ces gens se connaissent. Ils vivent les uns à côté des autres, quasiment, les propriétaires, les fermiers. C'est quoi l'ambiance, en fait, de ces audiences?
Alors, mes assesseurs se connaissent, puisqu'ils sont assesseurs depuis de longues années, bien avant mon arrivée. Donc oui, ça c'est certain. Après, oui, il arrive qu'il y ait des dossiers dans lesquels les noms leur parlent. Surtout qu'ils ont une connaissance beaucoup plus concrète que moi, qui en plus ne suis pas du département, très clairement, géographiquement, quand il est fait état de parcelles situées dans tel ou tel endroit, eux, ils ont des réflexes très pratiques que je n'ai pas. Et c'est tout l'intérêt d'ailleurs. Après, soit ils peuvent connaître, ça peut arriver, hein, qu'ils connaissent directement la personne. Après, j'ai jamais eu de situation dans laquelle c'était des proches. Il faut savoir que les assesseurs ont tous des suppléants, donc si jamais vraiment il y avait une situation où ils venaient à être personnellement impliqués dans les dossiers, ils peuvent être remplacés, c'est pas une difficulté. Mais enfin, le Cantal, ça reste un département, enfin surtout le ressort de Saint-Flour, oui, bien sûr, les gens, globalement, ils ont une idée plus ou moins précise du contexte, oui, sans doute.
Audrey Vessel, depuis combien de temps êtes-vous nommée à la fois sur Saint-Flour et Aurillac?
Un peu plus de 2 ans. Ça a fait 2 ans en septembre que j'occupe ces fonctions.
Alors, est-ce qu'on pourrait retracer votre parcours avant ?
Moi, j'ai passé le concours étudiant, hein, ce qu'on appelle le concours étudiant, donc pour entrer à l'ENM. J'ai pris mes premières fonctions le 1er septembre 2014, ça fait un peu plus de 10 ans, en Guyane. C'était un choix de ma part de commencer en sortie d'école, de prendre un poste là-bas. J'étais donc JAF, à titre principal. Après, en Guyane, tout le monde fait beaucoup de pénal. L'activité pénale est très importante, donc j'en faisais aussi beaucoup. J'y suis restée 3 ans, ce qui est la durée assez classique outre-mer.
Pourquoi le choix de la Guyane ? Qu'est-ce qui vous motivait d'aller dans un département peu connu avec des problématiques très particulières ?
L'envie de voir autre chose, clairement. Et pour des raisons personnelles, il s'avère que mon mari partait aussi travailler en Guyane. Donc on a travaillé tous les deux là-bas, on a pris notre poste en même temps, lui sur un volet plus pénaliste. Et ensuite, on est rentrés ensemble en Auvergne, donc à Clermont-Ferrand, où j'ai pris des fonctions, alors toujours plutôt civilistes, mais vraiment là, le civil pur, c'est enfin, ce qu'on appelle dans notre jargon le civil pur, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de rédaction de dossiers civils, tout contentieux confondu, et j'ai ensuite pris la main sur un des cabinets de droit civil, alors plutôt spécialisé sur tout ce qui concernait notamment les successions et tout le reste, les contrats, les assurances, la copropriété, enfin pas mal de choses.
10 ans après, votre choix de devenir juge, expliquez-moi.
J'avais 14 ans quand j'ai décidé de tout faire pour essayer de devenir juge, donc ça fait un peu plus de 10 ans, mais je suis toujours aussi contente. C'est un métier qui est très intéressant. Moi, j'adore ce que je fais. Donc aujourd'hui, c'est très divers, puisque les contentieux que je gère sont assez différents les uns des autres, ce qui n'était pas le cas quand j'étais à Clermont, pour le coup. Mais c'est toujours aussi intéressant. Alors les rythmes sont différents selon l'activité. Si c'est du pénal, c'est toujours beaucoup plus dynamique. Le civil, on peut plus facilement se poser et s'organiser et réfléchir. C'est vraiment un métier de passion. Et voilà.
Pourquoi 14 ans ? Qu'est-ce qui s'est passé à 14 ans ?
Parce que j'ai fait un stage auprès d'un collègue magistrat à Clermont-Ferrand, qui était à l'époque juge d'instruction et qui m'a fait découvrir ce métier en 3 jours. Et c'était tellement passionnant, c'était vivant, c'était humain, pour une adolescente de 14 ans, pour moi c'était évident.
Guyane, Clermont-Ferrand, Aurillac-Saint-Flour, est-ce que vous êtes dans un parcours judiciaire qui s'appelle une carrière et comment est-ce que vous voyez dans 10 ans ?
Moi j'aime mon métier, donc je me vois magistrate, c'est pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Après, une carrière, je pense qu'on fait en fonction à la fois de nos appétences, c'est-à-dire qu'il y a certaines fonctions que je ne souhaite pas exercer, par goût, voilà.
Quoi par exemple ?
Je ne pense pas être un jour au parquet, je suis un juge du siège. J'aime beaucoup travailler avec mes collègues du parquet. Je trouve que c'est très important d'échanger et de fonctionner ensemble et de faire au mieux. Mais c'est pas une fonction qui m'intéresse. Donc ça, c'est à peu près certain. Après, ça peut tellement bouger vite, y compris dans nos fonctions. Il y a 10 ans, j'aurais pas absolument pas parié sur Aurillac ou Saint-Flour. Non, c'est difficile de dire. Et puis, ça dépend des opportunités, ça dépend des places qui se libèrent à droite, à gauche. C'est très incertain, tout ça.
Audrey Bessac, le président disait qu'au civil, les temps de jugement avaient été accélérés. On était passé de 9 mois à 6 mois et demi. Donc, ça veut dire que ça vous impacte. Et donc, vous êtes aussi une des chevilles ouvrières de ces jugements qui vont plus vite. Comment vous faites avec le manque de moyens criant de la justice et notamment... Vous êtes 9 juges ici, il y en a 12 pour le Cantal, donc sous-effectif. Comment vous faites ? Vous travaillez 2 fois plus ?
On s'organise. Disons que moi, je tiens effectivement à rendre mes décisions dans un délai raisonnable. Donc au JAF, c'est maximum 1 mois. Enfin, les textes nous autorisent à rendre les décisions dans un délai de 2 mois. Mais bon, moi, c'est important tant pour mon organisation entre mes différentes casquettes que pour les gens que les décisions sortent rapidement.
Après, on fait avec le temps qu'on a. Donc, moi, je jongle entre mes différents contentieux. Quand le JAF, ça devient difficile, parce que des journées où on ne rédige que du JAF, à la fin de la journée, on est quand même... voilà, c'est des fois on a un petit peu envie de faire autre chose, et ben je panache, voilà, je vais sortir un dossier civil. En général, ça c'est pas le problème, j'ai toujours autre chose à faire. Après, il faut tenir le rythme. C'est, disons que si on, enfin, on peut difficilement s'autoriser à relâcher, c'est trop risqué. Donc il faut, voilà, il faut tenir le cap qu'on s'est fixé.
Maître Moins, on est sur le chemin du retour. Votre ressenti par rapport à ce tribunal des Bruraux ?
On sent l'importance des dossiers pour les gens. Parce qu'il y a toujours pareil, il y a un côté très territoire, son patrimoine, sa vie, dans lequel je mets mes pieds. Voyez, le fait de mettre les pieds, de travailler dans la terre, ça marque la passion des gens pour ce territoire, pour ce qu'ils font, etc. Et donc, moi, je trouve toujours le tribunal paritaire, on ressent ça, voilà. Et ce qui fait que les dossiers sont toujours des dossiers assez passionnels, parce que c'est important, leur propriété, leur activité, tout ça. Et après, moi je trouve que ça fait 30 ans que je fais ce métier, et l'évolution, c'est le souhait des gens de tenter des conciliations. Même si aujourd'hui les conciliations n'ont pas eu lieu, je suis certain que dans les dossiers qu'on a, que vous avez vus, il va y avoir des conciliations. C'est qu'on va arriver avec les avocats à mettre les gens d'accord sur telle ou telle solution pour les uns et pour les autres. Et ça évite de déstructurer une exploitation agricole, par exemple, et ça permet quand même de préserver les droits du propriétaire.
On vous a retrouvé ce matin à 8h, Maître Moins, il est 17h. La suite de votre journée, c'est quoi ?
J'arrive, je vais faire les courriers de mes audiences, là. Puis après, je vais regarder le courrier qui est arrivé. Puis je vais appeler quelques clients. Et après, je vais, ce soir, à la veillée, je vais corriger ce que ma secrétaire a pu taper, voilà.
Maître Chalinier, on vous a vu ce matin, on vous recroise ce soir. Qu'est-ce que vous avez fait de votre journée ?
Alors, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée ? Alors, ce matin, je suis venu récupérer un dossier pour une comparution immédiate qui avait lieu à 14h et pour laquelle j'étais désigné en remplacement d'un de mes confrères qui est aux assises, et que c'était pour un client à lui, donc je devais le suppléer. Et ce matin, j'ai eu des rendez-vous au cabinet sur des dossiers qui n'ont rien à voir avec du pénal, pour le coup, et heureusement, parce que c'est très agréable de faire du pénal, mais tout le temps, c'est un peu, c'est un peu toxique. Et cet après-midi, donc, j'avais ce fameux dossier de comparution immédiate, et puis j'ai enchaîné sur une procédure collective au tribunal de commerce. Parce que je jongle un petit peu entre les deux. Moi, j'ai une formation à la base avocat droit des affaires, mais j'ai pris goût au pénal il y a quelques années. Donc en ce moment, j'en fais beaucoup parce que c'est la dimension humaine que je perçois moins souvent dans la partie droit des affaires ou droit des sociétés.
Le dossier comparution immédiate, qu'est-ce qu'il y avait de problématique sans rentrer dans le dossier ?
Ce qui est problématique, c'est l'accompagnement de jeunes qui sont en difficulté. On est sur une personne qui a été placée très tôt en ITEP, qui a été ballottée de famille d'accueil en famille d'accueil. Une enfance un peu compliquée, une scolarité chaotique, des comportements toxiques, notamment on est sur une addiction à l'alcool assez marquée. Quelqu'un qui paraissait à peu près inséré dans la société jusque vers 2018, qui avait un travail stable, qui avait une compagne. Et puis pour une raison mystérieuse, tout ça s'est enrayé. Il a fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique, plusieurs tentatives de suicide. Et aujourd'hui, on était convoqué devant le tribunal pour avoir contrevenu à un sursis probatoire qui lui interdisait d'entrer en contact avec son ex-compagne et de paraître à son domicile. Alors ça, c'est des choses qui sont classiquement prononcées dans les jugements à titre de contrôle judiciaire sur le probatoire. Et on est là typiquement sur quelqu'un qui n'a pas compris du tout la portée de ces obligations-là. À peine sorti de détention, il est reparti chez la compagne en question. Ils se sont remis en couple pendant 2-3 mois. Et puis, comme d'habitude, ça a recassé parce que c'est toujours sinusoïdal. Hein. On se remet en couple, on se dispute. Je vous passe le détail. On sort un cas malheureusement très banal. En l'occurrence, ça, c'est quelque chose qu'on voit quasiment pas toutes les semaines, mais plusieurs fois par semaine. Et là, contravention sursis probatoire, il se fait contrôler par les forces de police à la sortie du domicile de sa compagne. Et au lieu de se laisser contrôler son identité, parce qu'il est bien conscient qu'il ne devrait pas être là, il essaye de s'enfuir. rébellion, coup sur un des dépositaires de la force publique, et donc on se retrouve devant le tribunal aujourd'hui avec une demande de révocation d'un sursis de 8 mois qui lui pendait au-dessus de la tête, plus la condamnation sur les faits qui lui étaient reprochés sur le délit en question. Et donc on sort de là avec un constat qui est exactement le même des deux côtés de la barre. Le ministère public dit « je sais plus quoi faire à l'égard de monsieur X ». Et moi je dis « je sais plus quoi faire non plus à l'égard de monsieur X ». C'est-à-dire on fait le même constat mais pour des raisons complètement opposées. La conclusion du ministère public c'est qu'il faut qu'il aille en prison. Et ma conclusion c'est de dire « c'est pas en détention que ça va améliorer quoi que ce soit ». Finalement, la problématique, elle est-ce que l'alternative à la détention permet de trouver des solutions qui permettent à cette personne d'abord d'être suivie en addictologie, d'être suivie sur le plan psychiatrique, d'être accompagnée, y compris pour trouver un emploi. Parce que tout le reste, évidemment, pénalise sa recherche d'emploi, hein, comme d'habitude, c'est un peu le cercle vicieux. Et la réponse aujourd'hui, bah, c'est l'incarcération. Donc on repart avec 16 mois au lieu de 24. Mais en même temps, comme on fait sauter le sursis probatoire qui était de 8 mois, en fait, on retombe sur les 24 mois qui avaient été requis par le ministère public. Et donc cette personne reste en détention et va faire 24 mois de détention avec les aménagements de peine et les remises de peine. Bon, ça ne sera pas 24, mais il reste en prison. Et pour moi, c'est pas dans le milieu carcéral que cette personne-là va améliorer sa situation. À l'extrême limite, on peut supposer qu'il va peut-être se désintoxiquer de sa dépendance à l'alcool. Peut-être. Mais il n'est pas du tout interdit de penser qu'il y acquiert une dépendance aux substances toxiques et stupéfiantes, puisque malheureusement, et c'est pas un secret, tout le monde le sait, y compris le parquet, dans les maisons d'arrêt, il circule tout ce que l'on veut comme stupéfiant.
Même à Aurillac?
Bien sûr, même à Aurillac, oui. La seule difficulté pour les détenus ici, c'est d'introduire des téléphones. Ça a l'air un tout petit peu plus compliqué que dans d'autres juridictions. Et pour les stupéfiants, malheureusement, médicaments stupéfiants, ça circule tout ce qu'on veut. Et quand on y entre sans être addict à ça, on a de forts risques d'en sortir en étant devenu addict à ça.
Demain, votre journée, c'est quoi?
Alors demain, ma journée, j'ai une mesure d'assistance éducative à 9h là, pour un jeune couple de gens du voyage qui n'ont pas scolarisé leur petite fille qui, à l'âge de 9 ans, ne sait ni lire ni écrire. Donc effectivement, et à juste titre, le procureur s'est un peu alarmé de ça. Donc ils sont convoqués, alors ils sont très très inquiets parce qu'ils ont peur que la gamine soit placée en foyer. Donc on va essayer de travailler sur un aménagement de mesures éducatives en milieu ouvert. Et puis l'après-midi, comme je suis de permanence pénale, je peux à nouveau avoir éventuellement un déferment et une comparution immédiate ou un juge des libertés. Ce que, a priori, pour l'instant, le parquet ne m'a pas annoncé. Mais on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la soirée ou auquel cas bah, je serai un peu sur le pont dans l'urgence comme je viens de faire aujourd'hui.
Prendre le goût du pénal, c'est ça ?
Garder le goût du pénal. Je l'ai pris, mais j'espère le garder.
Ça coûte, ça coûte. Allez, on registre.
Aïe, aïe, aïe. Le droit rural en action.
Ça coûte. Le micro.
Avec Kitry Lasserre, juge des contentieux de la protection, Nathalie Lescure, juge des libertés et de la détention, Audrey Bessac, juge aux affaires familiales et vice-présidente du tribunal de proximité de Saint-Flour, les avocats Fanny Goy, Pierre Chavigné, Jean-Antoine Moins, Marc Petitjean, Pierre Chambaud, le chroniqueur judiciaire à la montagne, et la greffière Marine Sève. La série documentaire, coordination Emmanuel Laurentin, chargée de programme Marie-Vanna Bolivier et Anaï Morales, mixage Eric Villenfin, réalisation Jean-Philippe Navarre, un documentaire de Michel Pomaret. Thank you.